Quartz Livre, Céline Auclin.
Le sifflet, le cercle du passé et des gens présents. Instruction pour quitter le chalet. Plus d'espace pour les dindes. Parlez-vous baleine? Un papa mille bouddhas? Histoire d'un voyage fait aux fameuses chutes Niagara. Ce sont les titres des 7 nouvelles qui composent le recueil Tombola, qui paraît aux éditions Zoé et dont nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur Jérémy Gindre. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va et vous?
Ça va très bien, merci.
Alors déjà, les titres titillent notre curiosité avec aussi quelques aspects énigmatiques. Ils donnent envie de se plonger dans ces histoires aux paysages fort divers, des paysages qui sont à la fois extérieurs, géographiques, météorologiques, et des paysages aussi intérieurs, ceux de vos personnages. Est-ce que ça vous va comme définition?
Oui, je prends.
Vous prenez. Ça commence dans les Hautes-Alpes avec Zita, ébéniste férue de montagne qui a besoin de partir marcher seule pour une journée, peut-être aussi pour y voir plus clair. Or, c'est le brouillard qui l'attend. Et le recueil se termine 5 nouvelles plus tard, après avoir voyagé d'un chalet éventré par un arbre tombé à un temple bouddhiste au cœur du Morvan, en passant par l'estuaire du Saint-Laurent ou encore un parc animalier jurassien. Le recueil se termine dans un décor urbain avec Charline et des oiseaux rouges migrateurs, un bibliothécaire bodybuildé, un écran de télévision et une mélopée haïtienne remontée des chutes du Niagara au Canada. Comment est né Tombola, Jérémy Gindre? Comment est né ce recueil?
Alors, comment est né ce livre? Je ne me souviens pas, parce que ça prend très longtemps de faire un livre. Mais au départ, il y a les nouvelles qui s'écrivent les unes après les autres. D'autres sont mises dans des tiroirs en cours de route. Et puis, petit à petit, se forment des liens entre elles. Et j'essaie comme ça de composer une suite de nouvelles qui fonctionnera comme un corpus. Donc, ça prend du temps. Certaines nouvelles sont très anciennes, ont été revues plein de fois. D'autres sont beaucoup plus fraîches et sont venues comme ça peaufiner l'ensemble final.
Donc, chaque nouvelle ne dépend pas de l'autre, elles sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent se lire pour elles. Néanmoins, comme vous venez de le rappeler, elles ont un lien. Quel est ce lien qui relie les histoires entre elles, qui les fait résonner?
Alors, il y en a plein. Moi, je me plais toujours à disséminer comme ça des indices ou des échos entre les histoires. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté de façon peut-être encore plus tendue dans mon livre précédent qui s'appelle « Trois réputations », où il y avait 3 histoires plus longues, c'était des novellas, où vraiment, même si les histoires se déroulaient dans des contextes différents et dans des époques différentes, le schéma narratif était toujours le même. Et il y avait plein d'échos comme ça et de ping-pong entre les histoires qui provoquaient les effets de déjà-vu. Et c'est effet de déjà-vu et tout ce ciment que je mets entre les briques des différentes histoires, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de travailler, mais plutôt dans la phase finale d'écriture, ou alors en cours de route, je me dis « Ah oui, tiens, c'est marrant, il y a plusieurs fois des histoires d'animaux ou d'oiseaux ou les questions de météo qui rentrent en place, donc je vais peut-être pousser le curseur là-dessus, le tout en essayant de rester subtil, si possible, mais en faisant en sorte que justement ces histoires soient liées entre elles par des coïncidences.
Des coïncidences et de l'insolite et de l'inattendu également dans chacune d'entre elles. En tout cas, apparaît dans ce que chacune de vos héroïnes entreprend, je dis bien héroïne et pour cause, on en reparlera plus tard, apparaît dans ce que chacune de vos héroïnes entreprend un moment de presque de stupeur ou de déraillement. Hein. Ça prend la forme souvent d'épreuves, c'est le point de départ à un flot de conscience, comme des soliloques. Hein. Une de vos personnages parle de mouline, sa mouline, la pensée, la réflexion. Donc elles ont toujours une idée en tête, il y a toujours une destination. Et il y a quelque chose qui vient rompre ce à quoi elle s'attendait.
Oui, mais je pense que l'inattendu, c'est essentiel, parce que sinon, ces nouvelles sont construites de façon assez simple et même assez plan-plan. Ça commence presque toujours le matin et ça se finit le soir ou le lendemain. Donc, il y a cette idée d'un déroulé en direct dans l'histoire. Et puis, c'est toujours des gens des personnages qui se rendent quelque part, comme vous l'avez dit, soit rendre visite à quelqu'un, soit visiter un site naturel ou culturel. En tout cas, elles vont visiter un endroit et puis elles vont pas y trouver ce qu'elles attendent, sinon on s'ennuie. Donc il y a quelque chose qui vient gripper les plans.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle vit des grands moments de solitude? C'est quelque chose qui m'a marqué. Alors, on va croire que c'est triste ou que vos histoires sont peut-être graves, alors qu'elles sont surtout très vivantes. Hein. Vous avez à cœur d'écrire les choses un petit peu comme un documentariste, c'est-à-dire que, et c'est très visuel, hein, on observe vraiment tout ce qui se passe, tout ce que font les personnages, on est avec elles. Je dis elles parce que ce sont toutes des femmes, les héroïnes de vos nouvelles. Donc, elles ont toutes un moment de solitude qui est souvent d'ailleurs recherché.
Oui, alors recherché ou pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment de solitude qui fait partie de l'inattendu. C'est-à-dire que quand on se rend quelque part, on s'attend soit à entrer en conversation avec la personne à qui on rend visite, soit à être ébloui par le paysage qu'on va voir. On va pas chercher cette solitude-là. Et pourtant, elle nous tombe toujours dessus parce que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme prévu et qui les ramène à des questions qu'elles s'attendaient peut-être pas à se poser à ce moment-là.
Ou alors l'effet qu'ont leurs expériences sur leur psyché, sur leur mental. Si on prend l'exemple de Esp, drôle de prénom déjà, pourquoi Esp?
Esp, c'est le diminutif d'Esperanza.
Oui, et ça, on l'apprend pas tout de suite. Hein. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi vous avez choisi ce prénom-là. Esp, qui se rend donc à la montagne dans le chalet familial. Et là, elle va être confrontée à quelque chose d'inattendu qui va vraiment la troubler, qui va faire remonter à la surface tout un pan de son existence. Et il y a ce moment où il y a le lâcher-prise que vous décrivez très très bien à la page 60. Est-ce que vous pouvez nous le lire?
Oui.
Ou enfin, toute l'émotion peut prendre sa place. C'est très intéressant parce que ce sont souvent des détails aussi, des détails qui sont très parlants.
C'est un truc tout bête qui l'a fait enfin pleurer. En voulant mettre son t-shirt à sécher, elle constate que la corde à linge est cassée. Elle sanglote comme ça debout, en soutien-gorge. Une fois calmée, son premier réflexe est de téléphoner à son frère. Ses parents sont dans un si mauvais état en ce moment qu'il vaut mieux les épargner. Qui sait d'ailleurs quand ils pourront revenir. Son père n'a plus le droit de conduire et sa mère a comme un torticolis permanent depuis Noël. Son frère répond alors qu'il est au parc, en train de pousser sa fille aînée sur la balançoire. Espé raconte sa découverte et tente de lui faire un état des lieux raisonnable, mais il n'arrête pas de dire « Oh là là! Oh la merde! Oh là là !» Il lui demande de faire des photos pour l'assurance. Il aimerait bien monter les dés, mais ces jours-ci, ce n'est pas possible. Sa fille se met à criser. Elle veut descendre de la balançoire tout de suite. Il doit raccrocher.
Oui, ce déclenchement, c'est frappant et c'est très présent tout au long de vos nouvelles et extrêmement bien fait et bien senti. En tout cas, il y a une adéquation pour le lecteur quand on lit ces phrases-là, à ce moment-là. Voilà, vous arrivez, vous parvenez à décrire exactement ce qui nous arrive, toutes et tous. Personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Cette corde à linge, oui, c'est un détail qui va nous permettre de peut-être ouvrir les vannes.
Alors, c'est très gentil, ça fait beaucoup de compliments, surtout à propos d'une corde à linge, je ne m'y attendais pas. Mais ça tient à cette histoire de direct dont je vous parlais avant, c'est-à-dire que les histoires sont, sauf une, tout écrite au présent, et ça se passe très souvent en temps réel. Donc, en effet, ça permet d'amener comme ça des surprises qui sont pas préparées avec un très fort suspense, mais qui tombent comme ça dans l'instant présent.
Dans Tombola, votre recueil de nouvelles, il y a également des colères rentrées, des abcès à crever. Hein.
Il y en a.
Oui. Et le décor, parlons un peu du décor ou de l'importance des paysages. Qui sont-ils, ces paysages?
Ah ben les paysages, j'ai failli faire le lapsus même, c'est les personnages principaux. Souvent.
Je voulais vous poser la question, ce sont des personnages à part entière.
Moi je pars pratiquement tout le temps d'un lieu pour raconter une histoire, et puis après j'y mets des personnages. C'est un peu caricatural comme je le décris et ça se passe pas forcément comme ça. Mais très souvent, c'est un lieu qui me donne envie de faire se passer quelque chose ici parce que j'y trouve des ingrédients qui sont déjà de l'ordre du romanesque.
Voyage et paysage construisent également les pensées de vos personnages.
Ben, complètement, parce que quand on part en voyage, on pense autrement qu'à la maison.
Et est-ce qu'on peut dire que de manière générale, il y a un effet du paysage sur nous les humains?
Oui, alors ça j'en suis convaincu. Enfin moi j'en suis le premier cobaye. Je me rends compte que mes états d'âme sont complètement réglés sur le paysage et sur le temps qu'il fait dans ce paysage.
Et on a également le sentiment, Jérémy Gindre, que le paysage, avec les éléments dits naturels, hein, sont des révélateurs. Sont des révélateurs des biographies, enfin, des existences de vos personnages.
Oui, parce que les paysages, ben, bien souvent, je parle souvent de carte postale à propos de ce livre. C'est-à-dire que les paysages, on le voit, on peut l'imaginer comme une carte postale, mais c'est jamais ça. En fait, quand on arrive sur place, on passe non seulement au dos de la carte postale parce que ça devient quelque chose de personnel. Il y a un message personnel dans ce paysage. Et puis, ben, c'est jamais vraiment comme dans le tableau, quoi. Il fait pas le temps qu'on s'attendait, il y a plus de monde que qu'on s'y attendait. On a oublié quelque chose à la maison, ce qui fait qu'on n'est pas prêt à le recevoir comme il devrait. Il y a toujours quelque chose qui se passe.
Je vous propose là aussi peut-être de nous lire le début d'une de vos nouvelles. Je pensais à celle de Parlez-vous baleine. Je pense que ça va très bien illustrer ce dont on vient de parler.
Que font tous ces camions sur la route 138 si tôt le matin? Ils transportent tout ce dont les gens ont besoin. En provenance du nord, les délicieux produits de la mer. Crabes, homards, morues, sébastes, saumon sauvage, saumon d'élevage. En provenance du sud, des biens de consommation courants et des choses utiles. Fruits et légumes, produits d'épicerie, produits d'hygiène, pièces auto, matériaux. Sans compter ce qui a été chargé par erreur, envoyé au mauvais endroit et à tous les voyages à vide. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Les chauffeurs ne font que leur travail, transporter ce qu'on leur dit, où on leur dit, quand on leur dit. Partir à l'aube, freiner en descente, accélérer en montée, et tant pis si ça réveille les hôtes du motel Le Marsouin. Sorti sur la pointe des pieds de la chambre 18, Johan leur jette un regard chargé de reproches. Mais rien n'arrête les camions. Leur carrosserie est illuminée par les premiers rayons du soleil qui vient de se lever. Portant sa couverture roulée en boule, Johan s'empresse de faire le tour du motel pour voir ça. Elle passe devant leurs trois vélos cadenassés à la rambarde, descend les marches de la coursive et s'avance sur le gravier jusqu'à la pelouse. Un gros soleil orange, pâli par la brume, flotte au-dessus de l'estuaire. On dirait une carte postale, en plus voilée, mais aussi plus vibrant. Ben voilà, je vois tout à fait pourquoi vous... je suis tombé dans le piège.
Non, mais la suite, c'est que Johan, en fait, s'est réveillé plus tôt que ses copines avec qui elle est partie en expédition pour aller voir les baleines dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et c'est très intéressant parce que tous vos personnages, les personnages principaux après les paysages, sont des personnages féminins. Il y a Zita, Willa, Johan qui part en vacances avec Venise, hein, donc dans l'estuaire du Saint-Laurent. Il y a Espe, Anna, Saskia. Ce sont les protagonistes principaux de ces nouvelles, ce sont vos héroïnes. Pourquoi avoir choisi des femmes, Jérémy Gindre?
Alors, ça s'est fait tout doucement, assez simplement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les nouvelles s'écrivent, et puis à un moment, on fait des choix. On en écarte certaines, on en réécrit d'autres. Et puis, petit à petit, voilà, après avoir fait lire à un premier lecteur une première version d'un ensemble, il a pointé un certain nombre de nouvelles qui, pour lui, ne fonctionnaient pas. Il se trouvait que c'était pratiquement toutes les nouvelles avec des personnages masculins. Donc je me suis pas posé la question de pourquoi il avait fait ce choix. Il y avait d'autres, tout à fait d'autres raisons. Mais c'est après un choix personnel de m'être dit, bah voilà, si je construis les nouvelles avec des échos entre elles et en voulant les cimenter solidement, et ben ça peut être une des parties du ciment. Il y en a plein d'autres. C'est un des liens parmi d'autres de ce recueil. Mais en effet, il se fait que tous les personnages sont des femmes.
Mais est-ce que c'est difficile pour un écrivain homme de parler au féminin?
Ben, bien sûr que non. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. C'est l'histoire de la littérature et du cinéma est bourrée de gens qui ont opéré des changements de genre pour leurs personnages. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Et je pense que si on n'opère pas un déplacement, en tout cas, moi, si j'opère pas un déplacement quand j'écris, un déplacement dans le temps, un déplacement dans l'espace, un déplacement dans la météo ou dans les humeurs ou dans les genres, ben en fait je m'ennuie parce que sinon j'écris sur quelqu'un de un quarantenaire genevois. Voilà, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas pour moi, ça aurait pas d'intérêt.
Alors vos femmes, vos personnages féminins sont un peu des femmes qui n'ont pas vraiment besoin des hommes. Les hommes sont là, mais elles se débrouillent vraiment toutes seules. Ce sont des femmes manuelles, efficaces et qui mènent bien leur monde. Elles ont du relief, elles sont bien dessinées, elles ont de l'épaisseur. Est-ce que c'était important pour vous, ça aussi?
Ça aussi, c'est des choses qui se construisent pas dès le départ, ça se construit au fil du récit. C'est-à-dire que c'est les réponses qu'elles donnent aux événements face auxquels je les mets, qui fait que leur réaction, voilà, est heureuse ou malheureuse. C'est-à-dire qu'en effet, elles ont un caractère fort, chacune d'entre elles, mais parfois elles réagissent bien et parfois elles réagissent très mal. Voilà, ça fait toute la multiplicité des personnages. Je voulais qu'elles aient des points communs entre elles, même si elles vivent dans des pays différents, qu'elles ont des âges différents, qu'elles ont des professions différentes et des intérêts différents. Je voulais qu'elles se rejoignent sur certains aspects et peut-être que c'est en effet ce caractère assez trempé. Après, la question des hommes qui ont peut-être le mauvais rôle dans certaines des histoires, c'est aussi un truc de personnage secondaire. C'est-à-dire que souvent le personnage secondaire est un faire-valoir du personnage principal. Donc là, malheureusement, ça tombe sur eux.
Mais ce sont aussi des histoires, en tout cas une des histoires, Parlez-vous baleine, on va rester encore un instant sur cette nouvelle-là. Ce sont aussi les amitiés féminines que vous évoquez.
Alors pas que, dans la dernière, c'est une amitié entre un homme et une femme, les deux bibliothécaires. Où est-ce que je vais les puiser? Ben, comme tout le monde, en fait, je vais les puiser dans tout ce que je connais, c'est-à-dire dans la réalité, dans la fiction, dans des personnages que j'ai aimés, dans des films, dans des livres, et puis je mélange ça avec des gens que je connais ou des gens que je croise le jour où je suis en train d'écrire l'histoire. C'est toujours des personnages composites.
Vous avez parlé du bibliothécaire. Je peux pas m'empêcher de vous demander de lire la description de ses muscles. Hein. Donc, on est avec Brad.
L'histoire s'intitule « Histoire d'un voyage fait aux fameuses chutes Niagara ».
Oui, on va se délecter de votre description de Brad, très visuelle, hein, un bibliothécaire soucieux de son gainage intellectuel, mais aussi corporel.
Quand elle arrive à la bibliothèque, ses collègues sont en pleine discussion dans la minuscule pièce qui leur sert de vestiaire. Comme souvent, il est question des bornes de prêt automatique et des aberrations du nouveau système informatique. Dans un coin, Brad écoute et se tait, le temps de terminer ses étirements. Moulé dans un t-shirt bleu pâle vraiment trop petit, son torse bodybuildé est reconfiguré par étapes, méthodiquement. Ses muscles semblent si nombreux, si gonflés, qu'il faut en déplacer trois pour en bouger un, à la façon d'un Rubik's Cube. Sa paume et ses doigts s'agrippent sur son crâne rasé pour étirer graduellement sa nuque, se croisent dans le dos pour allonger les épaules, se pose sur les hanches qui entament à leur contact un mouvement de hula hoop. Sachant que ce mouvement indique la dernière étape de cette routine, Sherline n'attend pas qu'il ait fini pour l'interpeller.
Vous êtes réceptif également à l'incongruité qui semble être tapie partout dans nos vies, ce qui donne l'impression que vos personnages sont dotés d'un sens de la dérision, voire du ridicule. Hein. Il y a beaucoup d'instants où le lecteur sourit, il se reconnaît dans une forme de mise à distance de soi. On s'imagine très bien être Willa, qui découvre des photos de ses parents nus en plein air, avec ou sans chaussures, avec ou sans chaussettes, sur un site où se trouvent aussi des monuments historiques, des mégalithes. Elle va mener l'enquête, c'est en Grande-Bretagne que ça se passe, dans le Lake District. Oui, Willa a souhaité savoir où se trouvait cet endroit. Finalement, à la faveur d'une dernière averse au nord, il y a même un arc-en-ciel. Je suis en train de vous citer, Jérémy Gindre. Willa se sent oppressée par ce grand déballage naturel et ne sait pas ce qui lui a pris de venir ici. Mais de quoi je me mêle? Cette histoire de nudisme ne regarde-t-elle pas que ses parents? Tout ça pour dire que c'est vraiment très délectable. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Au contraire, j'ai même envie de vous dire qu'on s'attache aussi à vos personnages. Est-ce que parfois vous ne restez pas sur votre faim comme nous? Par moments, on a envie de continuer, d'être avec elles et eux.
Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps avec elle et eux, parce que ces histoires sont écrites en de très nombreuses fois. Donc j'ai de l'affection pour mes personnages, car je pense à beaucoup, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines quand ils passent du temps avec leurs personnages. Moi, même s'il s'agit de nouvelles, donc de formats plus courts, comme je vous le dis, c'est des histoires qui ont été beaucoup réécrites. Donc les personnages, je suis attaché à une version d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, qui change au fur et à mesure, c'est-à-dire que certains personnages étaient pas du tout attachants au départ, et puis le sont devenus au fil de l'écriture. Mais oui, je pense que si on peut passer du temps, moi en tant que lecteur, c'est ce que j'aime aussi, hein, donc je le reproduis en écrivant, passer du temps avec des gens, dans des endroits, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer.
Jérémy Gindre, il y a dans votre travail, pas que dans vos écrits, hein, puisque vous êtes aussi un créateur polyvalent, hein, donc dans vos installations, dans vos dessins, il y a quasi une omniprésence des animaux. On a l'impression que c'est une évidence, que ça ne pourrait pas être autrement, en tout cas que l'inverse serait inenvisageable.
Oui, il y a souvent un rôle des animaux, c'est vrai, dans mes histoires. C'est aussi parce que il faut apprendre à regarder ailleurs que juste le personnage principal. Mais il y a une nouvelle qui s'appelle « Le cercle du passé et des gens présents », qui passe d'un personnage à l'autre, comme un chien irait suivre différentes pistes. Et avec les animaux, ça fonctionne pareil, c'est-à-dire que tout à coup, décentrer le regard de ce qu'on croyait être l'action principale pour l'orienter vers d'autres protagonistes qui sont là, dont on parle pas souvent, je trouve que c'est des moments de déplacement qui sont intéressants.
Et un animal qui ne s'appelle pas, qui n'a pas de prénom, hein, qui s'appelle le chien ou animal.
Ah oui, alors dans cette histoire, il y a un animal qui s'appelle le chien parce que le personnage, son propriétaire, a lui-même renoncé à son nom. Donc par souci d'équité, il n'appelle plus son chien par son nom, mais simplement chien.
De manière plus générale, est-ce que les autres animaux sont quelque chose, c'est vital pour vous de les représenter aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui au XXIe siècle?
Ben c'est vital de s'y intéresser, oui. C'est vital de les considérer comme des habitants et des habitantes du paysage comme nous et du monde comme nous.
On pourrait dire que vous faites attention à vos voisins, comme dit Baptiste Morisot. Il faut faire attention à ses voisins qui est dans notre jardin.
Alors je fais très attention à mes voisins, en particulier les oiseaux.
Et pourquoi Tombola ?
Ah, la question du titre, alors comme vous l'avez souligné, c'est très important pour moi, les titres. Des fois, c'est vraiment une sorte de phare pour l'écriture ou au contraire de spot à la fin de l'écriture pour éclairer d'une certaine manière une histoire. Tombola, c'est venu tout à la fin. J'avais pas de titre pendant longtemps pour ce livre, ou plutôt il a changé de titre 10 ou 20 fois au cours de son écriture. Et puis c'est venu tout à la fin par réduction. Moi, je fonctionne souvent comme ça, par simplification. Et j'avais un autre titre, le dernier en lice, c'était « Où aller et comment rentrer ?», qui résumait pour moi très bien le principe de toutes ces nouvelles. Mais en même temps, j'avais déjà utilisé souvent ce truc de prendre un titre qui ressemble à un autre format de livre. Là, ce serait plutôt le guide de voyage ou le guide touristique. Donc je me suis rabattu sur Tombola, qui est un très beau mot en fait. C'est aussi visuellement que ça fonctionne, c'est-à-dire que je trouve que les lettres composent un très beau... C'est un mot qui fonctionne dans plein de langues aussi. Et puis voilà, il y a ce truc avec la Tombola où on attend toujours de gagner le gros lot et on repart avec un porte-clés.
Voilà. Et le gagnant reçoit toujours un lot en nature. La nature est très présente quand même dans cette nouvelle.
C'est vrai, encore un argument.
Dernier aspect peut-être, la langue. Tombola, c'est aussi un travail sur la langue et pas uniquement l'écriture. Hein. Parlez-vous baleine, Jérémy Gindre ?
Alors, je ne parle pas baleine, mais je sais que des cours de parlage de baleine, d'apprentissage du chant de baleine sont disponibles dans plusieurs endroits où on peut aller voir des baleines, comme sur la... côte nord du Québec.
Mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la langue ? Parce que dans cet ouvrage, en revanche, si vous ne parlez pas baleine, vous parlez québécois, un peu créole, un peu espagnol. C'est aussi très important, ça. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Oui, alors elle représente quelque chose qui n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on est suffisamment bien placé en tant que Suisse romand pour s'entendre dire qu'on ne parle pas tout à fait français. Voilà, la langue, là aussi, il y a des histoires. Simplement parce qu'elle se passe dans ces lieux-là, vous l'avez dit, en Angleterre, au Québec, en France, en Suisse, c'est des choses qui viennent teinter l'histoire. Après, je fais pas dans le Marcel Pagnol, c'est-à-dire que mes personnages ont pas, je cherche pas à leur donner des accents particuliers, mais je respecte la langue qu'elles parlent et donc je l'utilise.
Un peu comme un paysage également, finalement.
Oui, c'est ça, c'est des petites touches impressionnistes.
Et enfin, quand on vous lit, on a l'impression que vous avez du plaisir à en jouer, à écrire aussi, et à jouer avec la langue. C'est le cas ?
Oui, oui, mais sinon, je ferais autre chose. Mais oui, oui, j'aime beaucoup ça, écrire, j'aime beaucoup ça, travailler. C'est toujours des moments de grand plaisir de se plonger dans un texte, à part quand il faut le corriger 50 fois. Mais même encore là, je trouve que le fait de jouer éternellement avec un texte comme un chat avec une avec une souris morte, pardon pour cette comparaison, mais on a toujours, enfin moi en tout cas, j'ai toujours plaisir à rejouer avec mes textes.
Enfin, question style, hein, il y a cette citation de Laurie Colwyn en préambule de votre ouvrage. C'était la semaine de l'ananas au supermarché de la Grande Brune. Je vous laisse peut-être le dire.
C'était la semaine de l'ananas au supermarché de la Grande Brune. Alors c'est en effet une citation d'une première phrase d'une nouvelle de Laurie Colwyn, qui est une autrice que j'ai lue en écrivant ce livre et qui fait partie de plusieurs autrices qui ont compté pour moi. Et ce livre est sous l'influence de plusieurs d'entre elles.
Oui. Et on sent quand même que ça a imprégné votre style, hein, parce que quand on entend cette phrase, on pense à, aussitôt après l'avoir dite, Anna se demanda comment elle avait pu prononcer une phrase pareille. Fallait-il vraiment plus d'espace pour les dindes ? Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 19 ans et ma priorité, c'est de donner plus d'espace aux dindes.
Oui, alors Anna est très proche des personnages de Laurie Colwyn.
Précipitez-vous sur Tombola. Merci Jérémy Jeanne.
Merci beaucoup.
Je le rappelle, Tombola est disponible aux éditions Zoé.